Jusqu'ici, tout va bien ? De Marie Collot aux éditions Alice Jeunesse. Cinquième partie. Viarel et Darus Rotschak ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur mère, Madame Irena Krieski, née à Wroclaw le 3 mars 1971 et décédée à Bruxelles le 30 novembre 2016. La cérémonie religieuse suivie de l'inhumation au cimetière de Bruxelles aura lieu le samedi 3 décembre 2016 à 13h30. La famille recevra les condoléances ces jeudis et vendredis courants de 17h à 19h au funérarium Strobant situé rue Saint-Guilain, 76, à 1000 Bruxelles. C'est dingue. Je me défoule sur le premier venu alors que je ne ferai pas de mal à un chat. Chaque fois que je vois mes petits protégés, je fonds. D'un coup, c'est mon côté sentimental. Bien caché, je sais. Je traverse en vitesse mon quartier, planqué derrière une boîte dans laquelle roupillent 4 chatons que j'ai décidé de confier à un clodo. La vie, c'est une sacrée girouette. Il faut se laisser guider par l'imprévu et pas se tracasser. Un peu comme eux dans leur maison de carton. Ils dorment, rassasiés par leur festin de croquettes. Aucun n'ouvre l'œil malgré les secousses du transport. Ils ont confiance. De mon côté, je reste aux aguets. La liste des gens sur lesquels je ne dois pas tomber est longue. Même si les flics et la bande de Raja ont quitté les lieux, c'est risqué. Dans le voisinage, c'est des champions du téléphone arabe. Arrivé à la station-service, j'aménage un coin tout confort pour les chatons. Ils seront comme des rois. Et Pascal partagera volontiers son matelas. Il est sorti. Trop têtu, le mec. Il y tient à son perroquet sans cage. Il oublie que les chats et les oiseaux font rarement bon ménage. Je les ai bichonnés pendant des jours et je suis soulagée de leur avoir trouvé un compagnon de galère. S'ils attendrissent autant les passants que les gonzesses, Pascal se retrouvera bientôt avec pas mal de monnaie dans sa gamelle. Héros miaule, s'étire et se hisse en dehors de la boîte. Il renifle son nouveau domaine et, au lieu de s'y aventurer, il se faufile entre mes jambes. Je le prends dans ma main, qui n'est plus assez grande pour accueillir son corps élastique. Il ronronne. Je le caresse et le glisse dans la poche intérieure de ma veste, pile à la place où je mettais Rimbaud. À l'avenir, je ne serai plus tout à fait seule. La nuit protège les bandits et tombe sur mes épaules quand je sors de la station-service. Je marche vite, tête baissée, dans ces rues que je connais sur le bout des doigts. J'ai parcouru chaque millimètre du moindre de leurs centimètres, des tonnes de fois. J'habite ici depuis que je sais pleurer. Depuis toujours, quoi. Je ne suis jamais allée ailleurs, sauf en Pologne et à Paris avec l'école. Un de mes seuls bons souvenirs du collège. Avec Darius, on avait esquivé la visite guidée pour se promener sur les Champs-Élysées en fumant des pétards. La mémoire ne vaut pas la vie, mais quand je m'y mets, je suis un grand nostalgique. Rapidos, je me balade dans mon quartier dans l'espoir de croiser Amel. Pascal a peut-être raison avec ses théories bidons. Bien sûr, c'est risqué de m'éterniser. Et c'est tant mieux. Le danger m'attire, m'entraîne, m'aspire et tant pis pour la suite. Tu as pensé aux conséquences ? Ils m'ont tous posé cette question. Ma mère, le Dirlo et ses éduques, la juge, Dumoustier et vide tes poches. Il n'y a que mon père qui ne m'ait rien demandé. Lui, il s'est contenté de me donner des branlées pour me forcer à comprendre. Après, on cherche d'où vient ma violence. C'est simple, elle est née dans les yeux de mon père. Et elle n'a pas de fond, comme ces poings abîmés qui cognent encore et encore. Plus je fais des conneries, plus il s'acharne. Peut-être qu'il me tuera un jour. S'il me retrouve. Héros miaule et gigote dans ma poche. Je le sors et il me suit comme un petit chien vers le banc où j'ai regardé pendant tant d'heures les hirondelles. Il y a une belle vue. Enfin, c'est une expression. Tout est moche et les arbres plantés au milieu du square ne changent rien au décor. Ils sont trop petits. Et les appartements où on est censé s'entasser quand on ne traîne pas dehors, aussi. Depuis ce poste d'observation, on profite gratos d'un panorama au ras du sol. Sac à main, échange de shit et d'argent, bouquet de fleurs ou opinel caché derrière le dos. On voit tout, avec en bonus les jambes des filles qui défilent. Pas toutes des Miss France en vérité. Blindées qui se la jouent avec leurs chaussures à talons achetées au marché. Aucune n'atteint la semelle des baskets d'Amel. C'est ici que tout a commencé avec elle. Et que tout se termine. Elle est assise sur notre banc, avec Darius, dans ses bras. Ils sont tellement occupés à se serrer qu'ils ne remarquent pas mon arrivée. Tout s'éclaire. Il m'a pris mon cachot, il m'a volé ma copine. Je ne suis qu'un gros naïf trop gentil. C'est Hiroshima partout à l'intérieur de moi. Darius, je vais l'atomiser. Je me rue sur lui. Je l'empoigne par la capuche de son sweatshirt. Je le tire en arrière et j'agrippe ses cheveux bouclés. Il se débat, l'enculé. Amel crie. Elle essaie de me retenir. Je traîne Darius par terre. Je frappe. Amel continue de hurler. Elle sait que je suis capable de le lyncher. Elle me supplie d'arrêter. Sale pute ! C'est les seuls mots qu'elle mérite. Je tape, non-stop. Et mon pire ennemi se prend, coup après coup, chacune de mes rancunes envers eux deux. Quand j'ai mal, je suis un bulldozer dont il ne vaut mieux pas encombrer la route. Mes poings crient la douleur qui hurle à l'intérieur de moi. Frappé, il n'y a plus que ça qui compte. Les ecchymoses de Darius sont un pansement sur ma peine. Je continue à le boxer jusqu'à ce que des mains attrapent les miennes et me plaquent au sol. Terminé le massacre. Je sens des genoux dans mon dos, le poids d'un corps sur le mien. On m'immobilise et on m'ordonne de me calmer. Je ne vois pas les visages de ces types qui jouent au shérif. J'entends seulement leurs voix d'anciens voyous repentis depuis qu'ils sont pères de famille. Pendant que je suis par terre, les nerfs en guerre, Amel s'accroupit près de Darius. Elle pleure en sortant des mouchoirs pour nettoyer la tronche ensanglantée de l'homme de sa vie. Ah, je l'ai bien éclaté. J'espère qu'il gardera la marque de mes coups un bout de temps pour que son miroir lui rappelle sa trahison. Je marmonne des tas d'insultes et on appuie sur mes omoplates pour m'obliger à la boucler. Tu obéis ou on appelle les flics? Je m'en fous. Je croise le regard d'Amel, toujours aussi belle malgré ses larmes. Elle se relève et vient se poster devant moi. Du coup, on me lâche sous condition. Ils se prennent vraiment pour la police, ces mecs. T'es taré ou quoi? C'est quoi ton problème, hein? C'est quoi? Amel ne me donne pas l'occasion de répondre. Elle enfile son air de tigresse prête à déchiqueter celui qui a attaqué son petit. T'es jaloux, c'est ça? Tu crois qu'il y a que toi qui a des emmerdes? T'imagines pas que les autres aussi, ils en bavent? Que pour eux, c'est pire? Elle se tourne vers Darius en train d'éponger le sang qui coule sur ses joues. Lui, il n'ose rien dire. Bâtard. Il a perdu sa mère, Joseph. Elle est morte, t'entends? Morte! C'est pour ça qu'il est sorti le premier, pour avoir une chance de la voir encore vivante. Et il est arrivé trop tard. Mais ça, toi, tu t'en tapes. Y a rien qui t'intéresse à part ton petit nombril. Connard! À ces mots, je voudrais me cacher sous le béton où j'aurais fracassé la tête de Darius si personne ne m'avait retenu. J'ai un poids terrible sur les épaules et je ne m'en débarrasserai pas de sitôt. M'excuser, c'est inutile. Plus jamais je ne réussirai à les regarder en face. Tu vaux que dalle! Que dalle! Amel me pousse avec ses bras de nana qui ne tolère pas les minables dans mon genre. Je subis sans broncher chacune de ces bousculades qui me forcent à reculer. Et me traite pas de pute, ok? Pour qui tu me prends? Je le consolais, c'est tout. C'est trop difficile à comprendre? Je m'en voulais d'avoir été si dur avec toi. Eh bien, je le regrette plus. Allez, fous le camp, Joseph. Dégage! On ne veut plus de toi ici. Comme au revoir, j'ai droit à un doigt d'honneur et à ces paroles qui résonnent dans le silence de la nuit tombées pour de bon. Arrivé sous le pont, je l'entends encore me traiter de tous ces noms qui me vont si bien. Amel, c'était mon espoir. Puisqu'il a disparu, j'ai vraiment plus rien à foutre ici, comme elle dit. Ma douleur est plus grande que ma vie tout entière. Je ne suis qu'une ordure qu'Amel a balancée à la poubelle. Je fuis sa voix en train de crier que je mérite d'être crevée. Et chacun de ses mots me pousse dans le dos, toujours plus loin. Je me suis éloignée de 100 mètres quand je m'arrête pour vomir. Je ne parviens pas à avaler ce que j'ai entendu. Je ne me suis jamais sentie aussi lamentable, aussi coupable et honteux. Je me dégoûte, pire que le jour où, Darius et moi, on a balafré un gamin que nos menaces n'intimidaient pas. Dans les toilettes, après, j'avais eu envie de buter mon reflet dans le miroir. Bien sûr, je n'ai pas eu le cran de m'exécuter. Pareil aujourd'hui. Je reste immobile, à regarder mes traits serrés dans la vitrine d'un magasin. Héro me rejoint. Je l'avais complètement oublié, lui. Il miaule comme pour me le reprocher. Je le ramasse et je me remets en marche. Je pleure. Je pense à Amel, encore. À Darius, mon ami. À sa mère qui rigolait avec nous, même quand on l'avait déçue. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et je ressentirais quoi, moi, si je perdais la mienne? Je regretterais que mon père ne soit pas parti le premier? Darius, son père, il ne l'a pas connu. Il n'en parlait jamais. On partageait seulement l'adrénaline, les joints et les gains. Les plaintes et les pleurs, c'était pour les autres. Quand ça n'allait pas, nous, on préférait casser des voitures. Je me retrouve devant le canal, près du parking où sont garées des bagnoles abandonnées. Un endroit pourri où je suis venue plusieurs fois. Je saute de capot en capot, je chope un gros bout de bois. Bam! Je frappe dans un pare-brise. Bam! Bam! Je défonce plusieurs portières. Ma mère, les fins de mois difficiles, elle jette des assiettes sur le carrelage de sa cuisine. Chacun son truc. Bam! Je pulvérise un rétroviseur. Ça me défoule sans que je fasse de mal à personne, sauf à mes bras. Héro reste blotti au fond de ma poche pendant que je bousille ce tas de ferraille. Quand je me pose, essoufflée, sur un jerrican rouillé, il tremble. Je lui ai fichu la trouille. Jusqu'à présent, il n'a connu que le ronron de la chaudière. Je le serre contre ma poitrine et, avec ses petites griffes, il s'agrippe à ma chemise. Je le caresse en regardant cette eau sale et puante qui traverse la ville. Près des quais, des péniches remplies de gravier sont amarrées, éteintes. Une pluie fine et froide se met à tomber. La météo est assortie au décor. Je ne cherche pas un endroit où m'abriter. Je serai mouillée, tant pis. Je suis habituée. Héro grimpe sur mes épaules et découvre les premières gouttes de sa vie. Il reste perché, là, à observer les réverbères dressés dans la nuit, comme autant de bougies sur un gâteau. Il en prend plein la vue. Pendant ce temps, moi, j'essaie d'oublier. Les mots et les images, la vérité et la rage, les bons et les mauvais souvenirs, les erreurs et les coups de poing. J'aimerais me vider de ma colère. Pourtant, je suis obligée de la traîner avec moi. Je suis devenue mon pire ennemi. 19h46. Même les gens détestables méritent d'être nourris. Je m'offre un gros bol de nouilles dans un resto chinois qui propose une formule à volonté. Je suis venue manger souvent sur ces tables étroites. Le patron m'aime bien parce que je lui prête régulièrement mes biceps pour décharger sa camionnette. Zoner dans les rues, ça n'empêche pas d'aider ceux qui se crèvent à la tâche. Et c'est tout bénef. Quand je pousse sa porte avec mon costard humide recouvert de poils de chat, Liang me sourit plutôt que de me jeter dehors. La famille n'est pas là? Non, pas aujourd'hui. La première fois que je suis entrée ici, c'était il y a 8 mois. Avec mes parents et Ludmila, on s'était payé un menu 3 services pour fêter le nouveau job de ma mère à l'Excelsior. Liang rit beaucoup, surtout quand il ne sait plus quoi dire. En français, il n'est pas très à l'aise. Moi, j'adore écouter son accent indélébile. Ça me fait un peu voyager. Je m'installe près de la fenêtre, contre le radiateur mis à fond. Liang m'apporte une soupe qui me réchauffe avant que je la boive. Avec cette odeur de bouffe, Héro pète les plombs. Il essaie de s'échapper de ma poche où je le remets discrétos. Si le chef le remarque, il le coupera en rondelles et le cuisinera aux noix de cajou. C'est bon, je rigole. Il n'est pas assez gras. Enfin, avec ce que je lui file, il ne devrait pas tarder à gonfler. Il avale les vermicelles de riz comme la belle et le clochard des spaghettis. En dévorant mon dîner, je regarde le va-et-vient des derniers employés de bureau, ces motivés de la vie qui mourront d'un cancer à 50 ans sans avoir pu la savourer vraiment. Comme chaque soir, ils regagnent leur petite maison avec leur petite mallette. Moi, je n'ai plus de cartable et je ne rentrerai pas chez moi. pourtant je ne les envie pas. Ils laissent mourir leur vie au fil des jours, pendant que la mienne explose dans ma poitrine au rythme du meilleur et du pire. Les rues se vident. Il fait trop froid pour traîner dehors. Je supporterais mieux le silence de cette nuit qui commence avec Amel près de moi. On regarderait les étoiles en se serrant l'un contre l'autre pour pas mourir gelé. Pareil que dans les films à l'eau de rose qui font chialer les filles désespérées. Je marquerais 10 points et pour une fois, je serais assez rapide pour l'embrasser. Cette scène, je la visualise tellement fort qu'elle existe presque. Et que la réalité devient plus moche encore. Avant, l'imaginer dans mes bras, c'était doux. À présent, c'est surtout douloureux. J'ai un besoin fou d'enfiler les kilomètres pour oublier. Je marche vers la gare sans que mes craintes ne me suivent jusque-là. Raja ou les flics, maintenant, c'est pareil. S'ils m'attrapent, ce n'est pas un drame. Je ne vais pas vivre non-stop sur mes gardes. J'ai mieux à faire. Devant moi, une bien mauvaise surprise. Mon ticket pour ailleurs attendra. 20h02. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pendant qu'Amel me disait mes 4 vérités, Pascal a lui aussi passé un sale quart d'heure. Hey, « Hé, Pascal, réponds-moi » Je secoue son corps étendu près de l'entrée de la gare. Il cligne son œil au beurre noir et une phrase incompréhensible sort de sa bouche où ses dents n'ont plus l'air bien accrochées à ses gencives. « Tu peux bouger ?» D'un signe de tête, il me confirme que non. « Super, j'ai gagné ma soirée. » Je le relève et il gémit. Il pèse 1 tonne tellement il se laisse aller. Une loque de compète. Et bien sûr, personne pour nous aider. Il y a des gens dans les environs, mais pas un pour donner un coup de main. Il faut comprendre, ils ne veulent pas louper leur train, ils tirent déjà leurs valises, ils sont fatigués. Ils s'en foutent, ouais. Ce n'est qu'un SDF. Si le trottoir, il le voit de près, ce n'est pas grave, après tout, il connaît. Et après, c'est moi qu'Amel traite d'égoïste. Je me penche pour prendre Pascal sur mon dos. Je tire sur ses bras pour qu'il parvienne à monter. Je n'ai pas envie de me bousiller la colonne vertébrale. Il hurle. C'est la sienne qui est en mauvais état. J'avance jusqu'au banc le plus proche, avec autant de délicatesse que si je portais du cristal. Je reviens tout de suite. Dans le caniveau, je ramasse son chapeau. Il est cabossé et la plume qu'il avait accrochée a disparu. Quand je lui ramène, il grimace. Sa mâchoire est amochée et moi, je n'ai pas de mouchoir pour soigner son visage abîmé. « Qui t'a fait ça ? Depuis combien de temps t'es là ?» Pascal ne dit rien. Fini les histoires. Il pleure comme les petits biscuits dont je ne me rappelle plus le nom.
« Mon oiseau ! Mon oiseau ! » !»«
Quoi, ton oiseau ?»
Mon oiseau, mon oiseau, mon oiseau.
C'est parti pour les lamentations.
Mon oiseau, je l'aurai pas, mon oiseau.
Calme-toi. Je pose ma main sur sa cuisse et il n'a pas mal. C'est déjà ça. Allez, explique-moi. Pascal me parle à du 2 à l'heure et articule correctement 1 mot sur 10. En rassemblant ses bouts de phrases, je capte que 2 gars lui ont piqué ses thunes. Louis et Guy, je suppose. Ces crapules voulaient savoir où il avait trouvé 3 gros billets. D'office, ce n'était pas dans sa gamelle en carton. Il a refusé de cracher le morceau et ils l'ont tabassé. Ces types ne supportent pas la contrariété. Bande de salopards. Pascal ne méritait pas ça. Lui, ce n'est pas une balance. Il s'est tu, juste pour moi. Finalement, je n'ai pas tout perdu. Je viens de gagner un ami. 20h08. Dans la vie, rien n'est impossible. Malgré le sang sur mes doigts et la gueule de déterré de Pascal, le premier taxi qui s'arrête à notre hauteur accepte de nous prendre. Notre chauffeur a du cœur. Et c'est une taxi-woman. Je ne m'en aperçois pas tout de suite parce que je m'occupe des saignements de nez de Pascal. C'est seulement quand elle m'offre des mouchoirs en papier que je remarque ses ongles vernis. Fais passer de tête. Elle rit et appuie sur l'accélérateur pour me prouver qu'elle manie le volant aussi bien que n'importe quel pilote de course. Encore une nana qui a du cran. C'est pas trop le carnage, là, derrière ? Non, à part sur ma chemise, ça va. Pascal s'est affalé sur moi. Avec les taches rouges qu'il met sur mon costard, je peux dire adieu à mon air de Brad Pitt et bonjour à celui de repris de justice. Je parlais de lui, pas de tes fringues. Ouais, je l'ai déjà vu plus en forme. Tu le connais? Plus ou moins. Elle me fixe dans son rétroviseur. Longtemps. Je me tais. Je ne suis pas là pour résumer ces dernières heures à une inconnue. Tino, passe un peu d'eau, monsieur, s'il te plaît. Un gamin installé à l'avant me file une bouteille en plastique entamée. Il a des cheveux roux et bouclés. Il est plus petit que Ludmilla et il lui donnerait des leçons au roi du silence. Si la meuf ne lui avait pas causé, je ne me serais pas rendu compte de sa présence. Je bois un grand coup avant de mouiller un mouchoir que je dépose sur le front de Pascal. C'est mon fils, mon passager VIP. Hein, Tino? Il acquiesce et elle caresse sa tignasse de champion. Elle me raconte qu'il l'accompagne souvent quand elle travaille de nuit, parce qu'elle n'a personne pour le garder. C'est pas l'idéal. Il s'endort avec son doudou comme oreiller et après, il est crevé à l'école. Mais je n'ai pas le choix. C'est plutôt cool. Tu trouves? À son âge, moi, j'aurais préféré ça. À quoi? À rien. Je disais ça comme ça. J'en ai marre de ces questions qui cherchent à lire dans mon cerveau. Je me tourne vers la fenêtre pour lui montrer que je n'ai pas envie de discuter. Lui confier mon chagrin, ça durerait des jours entiers. Le gosse repère un truc intéressant à l'extérieur. Un dalmatien à l'arrêt de bus avec son maître. T'aimes les animaux, Tony?
Tino!
Avec sa mère, il rectifie mon erreur d'une seule voix, aussi complice qu'on l'était Darius et moi. Ah, désolé. Je sors Héro de ma poche et je lui tends pour qu'il en profite un peu.
Oh, il est tout blanc, maman, il me lèche.
Il s'appelle Héro.
Maman, maman, je peux l'avoir?
Non, non, les chats, ça n'aime pas trop les taxis. Elle me jette un regard ferme, histoire que je ne la contredise pas. Je te le prête le temps du trajet.
Pour toujours, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non. Non. Cette fois, sa mère et moi, on répond en chœur. Râle pas, Nono. On s'ennuie jamais dans mon taxi. Tu te souviens du dresseur de serpents?
Oui. De Johnny Hallyday?
Aussi.
Et du cascadeur?
Ils listent les clients spéciaux qu'ils ont conduits aux quatre coins de la ville et Tino oublie peu à peu sa déception. Un jour, on a même amené un géant chez le dentiste. Ils rigolent et on rajoute pour m'impressionner. La nuit, ils en voient toutes les couleurs. Pas étonnant qu'on ne les ait pas effrayés. Les saignements se sont calmés. Pascal récupère de ses émotions sur mon épaule pendant que je regarde les boulevards défiler. Je respire. La voiture fonce sur le bitume, passe sous les tunnels sans ralentir. Idem pour le compteur et ses kilomètres qui se paient trop cher. Pas grave. Être à l'abri, ça n'a pas de prix. Ça va aller? Ouais, merci. De rien, c'est mon boulot d'amener les gens où il faut. C'est sûr qu'un lifting te fera pas de tort, hein, Pascal?
À toi aussi, espèce de zombie puant.
Tino! C'est bon, il a raison. Je vous dois combien?
Pour vous, c'est gratuit.
J'ai de quoi payer. Je sors un billet de ma poche et lui fourre dans la main. Gardez la monnaie, j'en ai pas besoin.
T'es certain? Tu n'as besoin de rien?
C'est sa dernière tentative au cas où. Elle n'est pas dupe, elle me trouve un peu louche et elle estime qu'à cette heure-ci, je devrais être peinard devant la téloge plutôt qu'à l'hosto. Si, vous auriez pas une clope? Tout à l'heure, j'ai repéré son paquet sur le tableau de bord.
Non, c'est mauvais pour ta santé.
Allez, s'il vous plaît, tu fais comme mon fils. Mais lui, il a 7 ans et demi. Elle se marre et me tend une cigarette.
Parler, tu sais, parfois, c'est un bon médoc. Pense-y.
Je claque la portière pour lui confirmer que je m'en tape de ses conseils de fille qui a tout compris. Avant de démarrer, elle remet son compteur à zéro. Un geste tout con dans un taxi est impossible dans la vie.